Solarus. Je tiens à signaler d'ailleurs que dans le sujet suivant, comme j'ai fait des études de biologie, je suis un peu trop impliqué, donc je peux pas en parler. Toi, ton métier, c'est quoi déjà, Solarus ?
Technicien réseau et télécom.
Ah bah ça tombe très bien.
Ouais, donc on va parler du danger supposé des ondes électromagnétiques. C'est un sujet un peu épineux qui génère beaucoup de peur, et autant de peur que la marche des nouvelles technologies avance et ne peut pas être arrêtée. Avec la loi Abeille, les esprits bourdonnent et s'échauffent au sujet des ondes. La peur née de l'inconnu et toutes les choses nouvelles nous effraient. Il est évident que toute nouvelle technologie amène de nouveaux dangers. L'automobile, les machines-outils et l'avion sont arrivés avec leur lot de dangers. Et qu'avons-nous fait ? Nous avons étudié ces dangers, nous les avons encadrés pour les éviter au maximum. Ainsi, s'il existe toujours un risque d'avoir un accident de voiture ou d'avion, la plupart des personnes ont intégré ces technologies dans leur quotidien. Il en est de même pour les ondes électromagnétiques. Elles font depuis longtemps partie de notre vie quotidienne avec la télévision, la radio et aujourd'hui le téléphone sans fil ou le Wi-Fi. Mais s'il y a un danger, il doit bien être explicable scientifiquement. Penchons-nous sur la question. Une onde, c'est grosso modo un déplacement d'énergie dans un milieu. Dans le cas des ondes radio, c'est une propagation d'électrons dans le vide. Voilà.
C'est vraiment résumé.
Oui, bonjour. Dis, Jamy, comment ça marche les ondes?
On n'ira pas dans le service public.
Donc la lumière et le son sont aussi des ondes, autant que les rayons X et la radioactivité. Alors comment est-ce qu'on distingue les bonnes ondes des méchantes ondes ? Eh bien, les deux dangers principaux, ce sont l'ionisation et le dégagement de chaleur. Pour le premier, les ondes ionisantes se situent au-dessus du térahertz, c'est-à-dire au niveau des ultraviolets, des rayons X et de la radioactivité. Toutes ces ondes sont connues et reconnues pour leur toxicité respective. Le débat ici n'existe quasiment plus. En dessous de cette limite se trouvent la lumière visible, les infrarouges, les micro-ondes et les ondes radio. Mais alors, ces rayonnements présentent-ils un danger ionisant ? Eh bien, pas vraiment. Pour prendre l'exemple des ondes utilisées pour la téléphonie, elles ont une énergie 1 milliard de fois inférieure au seuil d'ionisation. Il est donc impossible pour ces ondes d'endommager directement un brin d'ADN, comme le ferait par exemple une forte radioactivité. Pour parler de l'autre danger, l'effet thermique, c'est un dégagement de chaleur directement provoqué par un rayonnement. L'effet est connu et exploité depuis des décennies dans nos cuisines. Les molécules d'eau soumises à un champ électrique haute fréquence, 2,45 GHz environ.
Non, tu dis la fréquence numéro 11 en Wi-Fi, c'est la même. C'est pour ça qu'elle est libre de droit d'ailleurs, oui, parce que justement, l'usage des Wi-Fi, des micro-ondes.
Hey, laisse-moi faire ma chronique. Donc, les molécules d'eau exposées à cette fréquence s'agitent très rapidement et dégagent de la chaleur qui chauffe l'aliment à l'intérieur du four. Certaines personnes ont remarqué que cette fréquence était celle utilisée par le Wi-Fi, n'est-ce pas Xavier ? Et donc se sont demandé si le Wi-Fi pouvait interagir avec l'eau de notre corps et nous griller la cervelle. Là encore, c'est une question d'échelle et de puissance. Les bornes Wi-Fi sont limitées à 0,1 watts, alors que les fours micro-ondes dépassent facilement les 1000 watts. Ainsi, les bornes Wi-Fi sont 5000 à 10 000 fois moins puissantes que les fours.
Et encore ?
Voilà.
Tu oublies de dire qu'une énergie de rayonnement, en fait, elle est diminuée de moitié par la distance. Donc,
oui, le carré.
Il y a une différence entre 10 cm du magnétron et 1 mètre.
Il y a un rapport de distance qui est exponentiel, je crois. Enfin, inversement exponentiel. La question reste alors de savoir si à ce faible niveau, il existe un danger. Malheureusement, aucune étude ne s'est suffisamment penchée sur la question pour démontrer la dangerosité ou l'innocuité, c'est-à-dire l'absence de danger, de ces rayonnements. On peut se demander s'il n'existe pas des effets qui soient ni ionisants ni thermiques, mais en l'état actuel de nos connaissances, aucun transmetteur biologique ne semble perturbé par les ondes électromagnétiques. Mais il reste encore des questions en suspens, comme par exemple, qu'en est-il des personnes électrosensibles ? Le problème des personnes électrosensibles est que leur mal est réel. Un médecin du travail toulousain a d'ailleurs récemment reconnu qu'une personne électrosensible était en situation de handicap de par ce fait. Pour autant, il n'a pas pu prouver le lien direct entre les champs électriques et les symptômes de son patient. Ainsi, seuls les symptômes ont été reconnus sans que la cause ait été clairement identifiée. L'hypothèse d'un problème somatique n'est pas exclue et le cas échéant, cette somatisation serait suffisamment forte pour provoquer des symptômes tangibles et handicapants. Mais si nous étions en train de passer à côté d'un danger réel, un danger étouffé par les pouvoirs publics tels que l'amiante ou les nuages de Tchernobyl. Comment se protéger d'un tel risque potentiel ? Là, j'ai une mauvaise pour vous, hein. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Hein. Toutes les protections anti-ondes que vous pourrez trouver sont des escroqueries. Que ce soit la moustiquaire ou le caleçon anti-ondes, rigolez pas, ça existe vraiment. Ce ne sont que des vulgaires.
On mettra le lien.
j'ai pris en. Oui. C'est en vente à Leclerc. Hein. J'ai une photo. ce ne sont que des vulgaires.
À côté du stand Leclerc Mobile.
Pas de publicité.
Non, mais c'est qu'un exemple. Hein. Et donc, bah, malheureusement, ce ne sont que de vulgaires attrape-nigauds pour vous voler votre argent. En effet, si les maillages de métal permettent de dissiper les champs électromagnétiques, c'est le principe de la cage de Faraday, les ondes qu'ils bloquent ne dépendent directement de la taille des mailles. Ainsi, un maillage conçu pour arrêter le Wi-Fi en 2,4 GHz n'arrêtera pas forcément le Wi-Fi en 5 GHz ou le GSM en 700 MHz. Nous l'avons dit, il n'existe quasiment aucune étude permettant d'inculper ou de disculper formellement les champs électromagnétiques. La faute d'une part aux entreprises du secteur et aux organismes gouvernementaux peu enclins à subventionner des études indépendantes et de l'eau et qui dépendent de. Enfin, il y a quand même beaucoup d'argent en jeu, hein, comme l'a dit Patrick Drahi, que chaque hertz se transforme en dollars. Voilà, texto. Et de l'autre, à des associations au discours anxiogène et au financement opaque. Ainsi, le Robin des Toits et la CRIRAD facturent plusieurs centaines à plusieurs milliers d'euros des diagnostics électromagnétiques. Un juteux business dont l'intérêt réel reste là aussi à démontrer. Nous ne sommes ici pas loin de l'astrologie ou de l'homéopathie. En bref, sans se limiter à la France, au niveau mondial, le constat est identique. Rien ne met suffisamment en cause les ondes électromagnétiques pour justifier un principe de précaution. Et il faut espérer que, si un tel danger devait être découvert, les opérateurs télécoms joueront le jeu et ne mettront pas les bâtons dans les roues de la sécurité sanitaire. Car entre les intérêts économiques d'un côté et les peurs quasi mystiques de l'autre, c'est bien la méthode et la rigueur scientifique qui risquent d'être pris en otage.